Flaubert et aux auteurs de la seconde moitié du 19e siècle, et elle va nous parler aujourd'hui de Flaubert dans les programmes scolaires. Sa communication s'intitule « On n'aime pas la littérature, Flaubert et l'institution scolaire ».
Merci Juliette. Alors je vais vous parler d'une autre forme de médiation, hein, la médiation scolaire et l'image de Flaubert à travers d'une part les instructions officielles et d'autre part les manuels qui les répercutent. Et une autre forme de médiation, même si peut-être que le film de Chabrol a dû une grande part de son succès, en tout cas de ses entrées à des séances scolaires, hein, en particulier de classe de seconde. Hein. À l'issue du chapitre 5 du roman qui les a vus s'essayer à la littérature, ou plus exactement à l'issue de la violente querelle qui clôture l'épisode et où Bouvard et Pécuchet affrontent les notables de Chavignol sur le terrain de l'art, de l'esthétique et de la morale, les deux bonshommes concluent dépités. La morale de l'art se renferme pour chacun dans le côté qui flatte ses intérêts. On n'aime pas la littérature. C'est au prisme de cette remarque désabusée que je prendrai volontairement au pied de la lettre et de la fréquentation assidue des programmes scolaires que j'ai d'abord appliqué en tant qu'enseignante du secondaire et puis que j'ai commenté et analysé en tant que formatrice dans le cadre de l'ESPE, désormais INSPE, que je voudrais proposer quelques réflexions sur le statut de la littérature dans l'enseignement du lycée et plus précisément sur la place et le choix des auteurs du 19e dans les instructions officielles et dans la déclinaison qu'on propose les manuels. Parmi les auteurs du 19e, je m'interrogerai bien sûr plus particulièrement à la place accordée ou pas à Flaubert et à la représentation de l'écrivain que l'école contribue à véhiculer. Alors là aussi, je ne pars pas de rien hein, et je déclare tout de suite ma dette à des travaux précédents, en particulier aux travaux de Martine G. et Jean-François Massol. Ils ont consacré plusieurs ouvrages à l'institution scolaire de la littérature française sur la période 1870-1925, et puis sur d'autres articles et travaux, en particulier celui de Virginie Actis, qui a mené une enquête sur la figure de Flaubert dans les manuels scolaires et sur une large période, puisqu'elle a travaillé sur la période 1900-2011. Et je m'appuierai également sur un travail que j'ai réalisé précédemment lorsque Madame Bovary était au programme des séries littéraires de la classe de terminale et qu'on proposait l'entrée de la génétique, enfin, l'approche génétique pour cette analyse. Et qui est effectivement, en liaison avec la génétique, le choix de Flaubert comme figure archétypale. On n'aime pas la littérature. L'aphorisme peut sembler pour le moins paradoxal, sinon totalement inapproprié, à l'heure où la réforme 2019 du lycée, engagée dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, je cite, propose une restauration des listes limitatives d'auteurs et des titres d'ouvrages imposés en classe de français, ce qui n'était plus le cas depuis 1981 et la réforme du lycée entreprise dans la continuité de la mise en place du collège unique en 1975. Comme dans un retour du refoulé pré-68art et pré-structuraliste, on voit ressurgir dans ces ultimes programmes, qui sont destinés à être renouvelés par moitié tous les ans, un avatar des humanités classiques, à la fois morale et esthétique, pas si éloigné en définitive des conceptions qui présidaient aux destinées de la discipline scolaire naissante à la fin du 19e. Encore les instructions de 1880 prenaient-elles la peine de justifier leur choix et leur prédilection, non exclusive mais très nettement marquée, pour les auteurs du 17e, dont on perçoit tout à fait la fonction modélisante. Les enjeux de l'enseignement du français dans ses débuts de l'école gratuite, laïque et obligatoire sont à la fois l'unification linguistique et la création d'une unité nationale autour de valeurs républicaines. Le grand tournant est évidemment celui des années 1880, quand la République fonde l'école sur le sentiment patriotique et la volonté de préparer la revanche militaire et intellectuelle sur l'Allemagne. Les programmes de l'enseignement secondaire, et même si peu d'élèves y accèdent encore, sont réformés dans la continuité de ce changement que constituent les lois Ferry, et en juillet 1881 s'ouvre la première session du nouveau baccalauréat S-Lettres réformé. La composition latine est supprimée, et les candidats doivent rédiger désormais une composition française sur un sujet de littérature ou d'histoire. C'est un changement majeur dans l'histoire des humanités. L'imposition de la composition française, c'est-à-dire une composition en langue française, va de pair avec la mise en place de programmes dont les ouvrages sont choisis pour leur perfection linguistique et générique supposée, ainsi que pour leur intérêt historique et patriotique. Le classicisme quasi exclusif des programmes précédents ne s'ouvre aux siècles successifs qu'avec prudence et défiance. Et je cite les instructions officielles qui ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque. Morceaux choisis de proses et de vers des classiques français. À propos de cet article, la commission s'est demandé s'il était bon de restreindre aux classiques le choix des auteurs. Elle a décidé que par le mot classique, il ne fallait pas entendre seulement les auteurs du XVIIe, mais aussi les grands écrivains du XVIIIe et du XIXe. Toutefois, les professeurs ne devront les admettre qu'avec la plus grande prudence. Les instructions de 1890 précisent de quoi relève cette prudence, et je les cite, « des règles éternelles du bon sens et du bon goût ». Les maîtres sont ainsi enjoints de proscrire, quel que soit le nom de leurs auteurs, je cite, « les livres capables d'incliner les jeunes gens vers l'ironie et le scepticisme ». Le maître qui, par légèreté ou par dilettantisme plus que ridicule, conseillerait à ses élèves la lecture d'une seule page capable d'affaiblir leur vigueur morale, trahirait son devoir le plus impérieux. Les prescriptions renvoient à des notions d'ordre moral, sont renvoyées dos à dos, ironie et scepticisme, attitude intellectuelle pouvant mener au doute et à la remise en cause de l'ordre social. Certes, les programmes doivent orienter les élèves vers le monde moderne et s'ouvrir aux nécessités du présent, mais il convient d'éliminer de l'enseignement les œuvres susceptibles de donner un exemple pernicieux, ce dont on soupçonne plus particulièrement les œuvres contemporaines. L'ouverture aux auteurs du XIXe est donc toute relative, et l'on demande à l'enseignant de privilégier les grands écrivains classiques, modèles de vertu, dont l'étude doit dominer tout l'enseignement du français. Les trois auteurs cités comme référence sont Corneille, Racine et Bossuet. Au moment où sont publiés les romans et les manifestes naturalistes, où naît l'esprit décadent, où apparaît le symbolisme, en quête du beau et de l'idéal, ces lignes tracent une frontière entre la littérature des professeurs et celle des écrivains, celle qu'on peut enseigner et celle dont la valeur formatrice est déniée. Le rapport de la commission dite des auteurs classiques propose pourtant, en 1895, deux noms d'auteurs du XIXe, Lamartine et, déjà, Victor Hugo. L'élargissement est désormais acté, mais l'on rappelle constamment qu'il ne doit pas prendre le pas sur les siècles classiques qui, je cite, « restent comme la citadelle et le sanctuaire des fortes études de lettres françaises ». L'ouverture, inévitable, ne doit pas remettre en cause la hiérarchie établie. Certains auteurs sont donnés comme essentiels, et ce sont les grands prosateurs et les grands poètes du XVIIe, Pascal, Bossuet, Fénelon, La Bruyère, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau. Les autres constituent une partie variable que le professeur peut étudier s'il en a le temps et dans laquelle il choisit selon ses goûts. Ce double mouvement est perceptible dans le discours institutionnel jusqu'à 1925. Les listes élargies des auteurs des programmes, à la suite de Lamartine et Hugo, on voit apparaître Chateaubriand, Vigny, Musset, Michelet, mais aussi Rousseau et Diderot, ou encore la chanson de Roland, preuve que l'ouverture se fait en amont comme en aval du XVIIe siècle. Ces listes élargies ne doivent pourtant pas faire oublier les réticences des instructions officielles. Si le texte littéraire, au cœur de l'enseignement du français, se constitue progressivement en objet d'étude, et c'est le cas encore aujourd'hui où la lecture reste centrale, il est avant tout un modèle à imiter. C'est le rôle modélisant dont je parlais tout à l'heure. Martine G. le souligne, c'est cette conception du texte littéraire comme parangon auquel se colter qui est sans doute à l'origine des réticences à l'égard du texte contemporain. Le texte doit être irréprochable, modèle de perfection esthétique et morale. Regardons de plus près l'entrée de la littérature du XIXe dans les programmes. En fait, elle se réalise en trois temps. En 1880, son intégration n'est que subalterne, sous la forme de morceaux choisis indéterminés. En 1895, c'est l'apparition de Lamartine et Hugo dans la rubrique « chefs-d'œuvre poétiques », sans autre précision, alors que Chateaubriand, Michelet ne sont abordés que dans un seul niveau scolaire. Les programmes de 1923 et 1925 voient apparaître Vigny et Musset, ainsi qu'une série d'extraits de tous ordres, extraits anonymes, de moralistes, d'historiens ou encore écrivains politiques. Et surtout, pour le sujet qui nous intéresse, des grands romanciers du XIXe siècle, sans autre précision. Donc on est en 1925, hein. Il faut attendre donc les années 20 pour que le roman fasse son entrée au lycée et sous la forme tronquée de morceaux choisis. Dans un article qu'il consacre à la place des écrivains du 19e dans les manuels du 20e, Mario Bastide a à la fois répertorié tous les écrivains mentionnés au moins dans deux manuels scolaires et le nombre de pages consacrées à chacun d'entre eux. La période couverte va de 1927 à 1988 et il n'a retenu que les manuels les plus couramment utilisés et qui consacrent un volume spécifique au 19e siècle. Le résultat de cette enquête confirme quelques attendus. En tête des mentions et des pages dédiées, Victor Hugo, omniprésent, dois-je rappeler ou indiquer que les contemplations figurent dans le programme national d'œuvres pour l'enseignement du français pour cette année scolaire, pour les classes de première de la voie technologique comme de la voie générale. Et donc Victor Hugo déjà, avec le nombre de pages le plus important dans les manuels, entre 22 et 67 pages selon les manuels, la palme revenant au Bordas de 1953, qui n'est autre que le très célèbre La Gare des Michards. Derrière lui viennent Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Flaubert, 172 pages, Musset, Vigny, Stendhal, 151, et Lamartine, pour s'en tenir simplement à ceux qui dépassent la barre des 100 pages. Zola, absent du premier manuel de 1927, dépasse aussi cette barre malgré ce handicap et la place très mesurée que lui consacrent les manuels antérieurs à ceux des années 80. C'est surtout parce qu'il prend une grosse importance dans les manuels des années 80 qu'il arrive à dépasser la barre des 100 pages. Précisément à partir de la collection dirigée par Henri Mitran chez Nathan en 1986. Quelques remarques. La prédilection manifeste et constante pour les figures qui allient le politique au littéraire. Chez Hugo, on étudie préférentiellement les qualités poétiques, et c'est encore le cas dans le programme actuel, mais aussi le talent de Tribun. Le manuel Magnard, de 1985, donne à deux reprises la parole à l'homme politique s'adressant à l'Assemblée. Le manuel est annonciateur d'une certaine image du Hugo d'aujourd'hui, et on l'a bien vu au cours de l'année de célébration du bicentenaire de sa naissance, où il est, en tout cas dans les manuels, de bon ton de parler avec mépris, ou pour le moins avec condescendance du poète Hugo, et pour saluer le dernier jour d'un condamné et le contempteur de la peine de mort. À cet égard, tout au moins, le programme Blanquer, donc le dernier programme, dans la lignée des programmes de l'agrégation de lettres modernes 2017, restaure Hugo en poète romantique. Le parcours, associé à l'étude de l'œuvre intégrale, je mets le montre guillemets parce qu'en fait ce sont les livres 1 à 4 dans les programmes. Donc le parcours s'intitule « Les mémoires d'une âme » et suggère un double mouvement vers l'intériorité ainsi que dans son rapport à l'histoire. Lamartine, premier auteur avec Hugo à être nommément cité dans les instructions officielles, et perd son importance dans les manuels suivants, tout comme Vigny ou encore Michelet, signe à la fois d'une ouverture générique des programmes qui intègrent peu à peu le roman, et donc le roman apparaissant nécessairement, la volumétrie du volume restant la même, ça fait décroître le nombre des pages consacrées aux autres genres, et aussi d'un éloignement temporel qui estompe le rôle historico-politique des écrivains. Je risquerai l'hypothèse que la représentation d'un Lamartine progressiste en lien avec son rôle en 1848 puis au sein du gouvernement de la Seconde République s'estompe progressivement au profit de celle d'un poète au lyrisme poitrinaire, Flaubert, légèrement suranné. A l'inverse, l'importance accordée à Baudelaire ne fait que croître. Le programme Blanquer confirme cette orientation. S'il n'étudie pas le Victor Hugo des contemplations, l'enseignant peut opter pour les fleurs du mal et pour le parcours associé, l'alchimie poétique, la boue et l'or. Le programme propose d'aborder le recueil en œuvre intégrale, sans restriction, ce qui n'était pas le cas de l'ensemble des manuels du XXe siècle. Les six pièces des fleurs du mal condamnées par le tribunal de 1857, on ne les retrouve dans aucun des manuels scolaires, à l'exception du manuel Magnard, qui ose publier deux de ces pièces. Pour un petit rappel de date, la réhabilitation de Baudelaire date de 1949. Qu'advient-il des romanciers ? Mario Bastide note que Balzac, Stendhal et Flaubert restent des valeurs jamais démenties. Le premier offre une œuvre suffisamment vaste pour que les auteurs de manuels puissent y trouver des textes variés, pas trop redondants. Les extraits de l'œuvre du second se limitent généralement au Rouge et au Noir et à la Chartreuse de Parme. Tournons-nous vers les programmes 2019. Pour les séries générales seulement, et sous l'objet d'études, romans et récits, on retrouve le Rouge et le Noir, avec le parcours associé, le personnage de roman, esthétique et valeur. Les séries technologiques, la voie technologique, se contentera de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, avec le parcours associé science et fiction, qui ne figure dans aucun des manuels analysés par Mario Bastide au cours du XXe siècle, et peut-être aussi parce que Verne, généralement, est un auteur que l'on étudie traditionnellement au collège. Rien de bien nouveau donc dans la proposition 2019, si ce n'est peut-être une attention portée au public des séries technologiques, généralement avec peu d'appétence pour la lecture, et à ses centres d'intérêt, qui dit filière technologique, dit science et technique. Ou pour le dire autrement, mais sans faire de procès d'intention à personne, peut-être l'idée préconçue que Verne est un auteur plus accessible que Stendhal, ou encore que les élèves des séries technologiques seront plus à l'aise avec un récit d'aventure et d'anticipation qu'avec une chronique de 1830. Choix potentiellement guidé, me semble-t-il, par des préjugés de classe. À moins qu'il ne s'agisse de ne pas mettre sous tous les yeux les vicissitudes faites d'ambitions, de passions et de morts d'un très peu recommandable Julien Sorel. Quoi qu'il en soit, l'objet d'études poésie propose trois auteurs identiques dans les voies technologiques et générales. Il s'agit de Hugo, Baudelaire, Apollinaire. Et pour le roman, La princesse de Clèves est incontournable pour tous. Est-ce à dire que les romanciers du 19e sont, eux, interchangeables ? Je vais le dire d'une façon plus positive, la richesse romanesque du 19e est certainement suffisante pour que l'on ait le loisir de varier les auteurs. Toutefois, dans le programme 2019-2020, pas de Flaubert à l'horizon, auteur dont l'image est sans doute celle qui a le plus évolué dans le courant du 20e. Présent dans les manuels depuis le début du 20e et plus conséquemment à partir de 1927, une vingtaine de pages en moyenne, avec 10 pages supplémentaires à partir des années 80, Flaubert n'accède pourtant jamais à la volumétrie d'un Hugo, ni à celle d'un Balzac. L'œuvre est plus réduite, certes, moins protéiforme aussi. On étudie exclusivement le Flaubert romancier, en oubliant le Candidat et bien sûr, enfin, surtout, la Tentation de Saint-Antoine, alors que l'on peut étudier chez Hugo le poète, le dramaturge, le romancier ou encore l'homme politique. Flaubert n'a pas non plus la chance d'être une femme, ce qui assure, par exemple, une postérité croissante, à George Sand. Le peintre idéalisé de la vie rustique de la petite Fadette, la mare au diable et des maîtres sonneurs, dans les manuels de la première moitié du XXe, a cédé la place à l'auteur engagé qui, je cite le Nathan de 86, se bat contre les préjugés sociaux et l'inégalité des classes, que l'on retrouve dans Le Compagnon du Tour de France, ou bien à la féministe d'Indiana et de Consuelo. Flaubert, dans les manuels scolaires, n'est d'abord l'auteur que de Madame Bovary et de Salambeau dans les manuels jusqu'aux années 50, jusqu'au Lagarde Michard. Puis, peut-être sous l'influence des théoriciens du nouveau roman qui privilégiait l'éducation sentimentale, ce roman est venu concurrencer Madame Bovary et dans les manuels des années 80, des extraits de Bouvard et Pécuchet, trois contes, voire des mémoires d'un fou, réduisent d'autant la place de Salambeau. On n'ajoute pas donc, mais l'on remplace, l'on substitue une œuvre à une autre, selon l'évolution du regard porté sur la littérature au cours du XXe siècle. L'article très renseigné que Virginie Actis consacre à Flaubert dans les manuels scolaires, qui couvre un large empan temporel, du premier qui est le manuel Marcouche et Garnier en 1900 jusqu'au manuel de 2011, propose en fait l'analyse des 17 manuels les plus utilisés, qui construisent une représentation de Flaubert oscillant entre le mythe de l'auteur réaliste et celui du livre sur rien, image elle-même relayée dans la période 2001-2011 et plus avant avec le retour de Madame Bovary et de ses manuscrits pour les programmes de terminale littéraire en 2015, par l'image de l'infatigable piocheur, tourneur obsessionnel de phrases et perfecteur d'une prose travail dont la mise à l'épreuve du Gauloir constitue l'étape ultime. Avant 1900, Flaubert n'apparaît pas, ou très exceptionnellement, dans la littérature scolaire. Il rentre dans les programmes de l'agrégation, de grammaire d'abord, au tournant du siècle, et c'est seulement ensuite qu'il devient progressivement un classique, au sens où les instructions de 1885 l'entendent, c'est-à-dire un écrivain patrimonial. Le choix des œuvres est largement commandé par leur appartenance générique, choix qui perdure jusqu'à aujourd'hui, mais tient également à des préoccupations éthiques et politiques. Les textes et biographies d'écrivains donnent l'occasion de prôner une morale civique, une sagesse, de bon sens et de mesure, de dénoncer le fanatisme, de prêcher la tolérance, d'évoquer les œuvres glorieuses de la patrie et d'en déplorer les malheurs, en écho aux événements du temps, de créer un patrimoine de textes connus et étudiés par tous pour, selon les instructions de 1890, établir une sorte de concert entre tous les enfants de la même patrie et concourir à l'unité de l'esprit national. Les classiques sont donc des modèles pour vivre plus que pour écrire. La littérature offre des illustrations du beau, mais surtout des exemples du bien. L'enseignement des lettres doit devenir une véritable leçon de choses morales professée par des écrivains de génie, comme une conversation avec les plus honnêtes gens de siècles passés, où se formeront tout à la fois le jugement, le sentiment et le caractère. Et je cite ici le bulletin administratif de 1890. On comprend pourquoi Flaubert n'apparaît que très peu dans les manuels avant 1927. Une seule page dans le Marcou de 1900 et 7 pages dans le manuel Caïn de 1912. D'une part, les caractéristiques que l'on s'accorde à reconnaître à ses héros et plus largement à ses romans ne peuvent leur permettre de prétendre à une quelconque exemplarité, depuis la morale Emma dont le procès n'est pas si lointain, jusqu'à la sulfureuse Salammbô, en passant par l'inconsistant, mou, fluide Frédéric Moreau, qui se dissout, pour ainsi dire, dans tous les bourbiers qu'il rencontre dans sa vie. Je cite ici Francisque Sarcey, dans l'article qu'il a publié au moment de la publication de l'Éducation sentimentale. D'autre part, le style de Flaubert n'est pas encore devenu ce singulier et sublime monolithe que la critique, à partir de Proust, a bien voulu voir en lui. De fait, à la charnière du 19e et du 20e, la querelle grammaticale autour du style de Flaubert, dont Gilles Philippe a tout à fait justement retracé les contours dans deux ouvrages, peut stigmatiser en Flaubert un maître d'erreur qui écrit mal, c'est le titre d'un article, c'est-à-dire en faisant peu de cas des règles grammaticales. Si de Baudelaire à Proust, en passant par Maupassant, Hennequin ou Zola, le style de Flaubert a pu trouver des admirateurs contemporains parmi les plus prestigieux, il ne faut pas oublier que ce même style a suscité une virulente querelle dans les années 1919-1920, nourrie par les fautes de français repérées dès la publication de Madame Bovary, par une critique fort pointilleuse en matière de normes grammaticales. Il faudra donc attendre Proust et son célèbre article à propos du style de Flaubert, paru dans la NRF en 1920, pour que la représentation de l'écriture flaubertienne connaisse une évolution aussi radicale que définitive. Proust rappelle d'abord qu'il n'apprécie ni les livres, ni même le style de Flaubert, en particulier, je le cite, « parce qu'il n'y a peut-être pas dans tout Flaubert une seule belle métaphore ». Ce qu'il est le premier à proposer, en revanche, c'est un changement complet de paradigme. Loin d'une lecture normative qui rabat la valeur du texte littéraire sur la conformité grammaticale, Proust fait des singularités immuables de la syntaxe flaubertienne déformante le fondement même de son style et corrélativement son critère de littérarité. Aux antipodes donc de Louis de Robert, pour qui en 1919 Flaubert écrivait mal, article qui porte sur les fautes d'expression repérées dans Madame Bovary, Proust emprunte ses exemples à l'éducation sentimentale et déplace le débat du champ de la norme et de la grammaire vers celui de l'esthétique. La beauté grammaticale, qu'il reconnaît à l'usage si particulier que Flaubert fait des temps verbaux, mais également des adverbes et des conjonctions, est la marque même et le seul médium possible d'une vision nouvelle incorporée aux diverses parties du discours. Dans cette période que Gilles Philippe définit comme le moment grammatical, se produit le changement du statut de l'usage idiosyncrasique, d'erreur grammaticale, en discriminant d'auteur. Les particularités syntaxiques flaubertiennes acquièrent progressivement leur légitimité au fur et à mesure que s'autonomise la sphère littéraire et que devient prégnante la notion d'auteur et corrélativement de style d'auteur, entendu comme originalité, singularité, unicité. La présentation du Marcou en 1900 rabat encore cette singularité sur un particularisme étriqué, une forme de systématisme froid qui dénie à l'auteur la moindre valeur d'exemplarité. Après Salammbô, je cite le Marcou, « le système de Flaubert s'accuse de plus en plus jusqu'à y faire bon marché de l'intérêt pour n'y consigner que le résultat d'une observation aiguë et sèche. » Le manuel Caïn de 1919 reprend et développe des griefs du même type. Si Madame Bovary peut apparaître comme le sommet de l'œuvre, qu'aucune faiblesse ne départ, la suite est présentée comme déséquilibrée ou plus ou moins inaboutie. En conclusion, le jugement global sur l'œuvre reconnaît le caractère achevé de la forme pour mieux exhiber une imperfection de fond liée à une théorie étroite de l'art pour l'art et à un mépris excessif des hommes et des doctrines. L'impersonnalité revendiquée par Flaubert est considérée par l'auteur du manuel comme une affectation. En guise d'argument d'autorité, un long passage d'une lettre à George Sand, de Sand à Flaubert, vient clore le chapitre. Dans cet extrait de la correspondance, la romancière fait le procès de l'impersonnalité de son ami. Je cite, « La suprême impartialité est une chose anti-humaine. Or, un roman doit être humain avant tout. Elle rappelle à Flaubert que pour susciter l'intérêt du lecteur, il faut aller tout droit à la moralité la plus élevée qu'on ait en soi-même et ne pas faire mystère du sens moral et profitable de son œuvre. Concluant cette présentation du manuel, la lettre de Sand apparaît comme la pièce à conviction qui en constitue la clé. Parce qu'il n'est pas moral, pas suffisamment humain, Flaubert ne peut être élevé à la dignité d'écrivain modèle et universel. La limite esthétique de l'écriture flaubertienne coïnciderait de fait avec une limite morale. Alors je ne reprendrai pas ici l'intégralité de l'étude chronologique de Virginie Actis, j'y renvoie, elle est publiée dans les colloques de Fabula, donc c'est un article tout à fait accessible et très précis, qui comporte la description et l'analyse de chacun des manuels du corpus. Je vais simplement me contenter de rappeler les points essentiels, en nuançant peut-être le processus, je cite ici Virginie Actis, de canonisation rapide qu'elle voit à l'œuvre dans la représentation flaubertienne des manuels. Je ne crois pas, pour ma part, à l'institutionnalisation de Flaubert comme modèle consensuel de l'écrivain. Ou plutôt, je pense que c'est précisément parce que l'école en fait une figure exemplaire de ce que peut être un écrivain voué, dont la vie entière est dédiée à l'écriture à l'exclusion de tout autre engagement, qu'elle entretient avec l'auteur une relation ambivalente qui oscille périodiquement entre consécration, ce que René Balibar dans Les Français fictifs nomme le culte officiel de Flaubert, et un évitement. Parce qu'il incarnerait le dépolitiqué, l'écrivain désengagé de la cité, désinvesti des choses et du monde, qu'il scellerait l'exclusion réciproque de l'écriture et de l'histoire. Pour le dire rapidement, Flaubert, c'est l'ermite de Croisset et rien d'autre. Flaubert pourrait même devenir une contre-figure, un repoussoir, lorsque l'école se donne pour mission principale de former des acteurs sociaux. Je cite ici le cadre européen de référence pour les langues, qui infuse depuis une vingtaine d'années l'enseignement-apprentissage des langues et cultures. C'est également le présupposé qui sous-tendait la réforme Vallaud-Belkacem du collège. D'un côté des acteurs sociaux ou, dans d'autres textes officiels, des citoyens. Et on se référera par exemple au parcours citoyen déployé pour l'élève de la maternelle au baccalauréat ou encore au référentiel de compétences des métiers de l'enseignement du professorat et de l'éducation. La première compétence à évaluer et à acquérir pour l'enseignant, c'est faire partager les valeurs de la République. Pour le dire avec Bouvard et Pécuchet, la morale de l'art se renferme pour chacun dans le côté qui flatte ses intérêts. Les préconisations et les choix des programmes aussi, qui dépendent moins de l'intérêt littéraire des œuvres, et de la stature des auteurs que de considérations politiques et ou idéologiques. Ce qui dérange chez Flaubert dans les manuels du tout début du XXe et qui continue, me semble-t-il, de déranger, c'est précisément la difficulté qu'il y a à le situer, en raison de cette impartialité anti-humaine épinglée par George Sand, posture suspecte tant poétiquement que politiquement. Les jugements des manuels sont symptomatiques d'une lecture politique en creux de Flaubert. Il est celui qui rompt le pacte social et éthique de la littérature. Il est partant un écrivain infréquentable. À partir de 1927, la représentation de Flaubert évolue et se fige autour de deux composantes. Première composante, le Flaubert réaliste qui, par la force de son écriture, transfigure en œuvre d'art la réalité la plus vulgaire. Il devient même, et à peu près pour les mêmes raisons qui faisaient de lui un écrivain décrié jusqu'alors, celui qui échappe aux conventions génériques et esthétiques, tout en les transcendant. C'est toujours ce statut d'exception par rapport au réalisme qui constitue la trame de la présentation de Flaubert dans les manuels plus récents, et que l'on retrouve, par exemple, dans le manuel de 1986 chez Nathan, dans la collection dirigée par Henri Mitran. La seconde composante qui s'affirme progressivement dans la représentation scolaire de Flaubert prend appui sur la correspondance, dont l'introduction dans le corpus d'études se fait dès 1927 et à laquelle on attribue, avec plus ou moins de distance et plus ou moins de nuances, la fonction de vademécum, clé de déchiffrement d'une œuvre et ou versant théorique d'une pratique aussi exigeante que potentiellement absconse. Vie en retrait, projet flaubertien du livre sur rien, évanescence du sujet, difficulté de l'écriture et autres affres du style, les déclarations de la correspondance viennent corroborer un idéal de la prose recherché pour lui-même et à l'exclusion de toute référentialité. S'impose alors peu à peu l'image d'un écrivain en marge de l'histoire que les préoccupations esthétiques et formelles prima jamais démenti, renverrait vers un isolat d'ivoire. Dans cette perspective, seul le manuel Bréal de 2004 fait office de singularité. En particulier dans la présentation de la correspondance, désignée explicitement comme un autoportrait, la correspondance est proposée à la lecture comme une œuvre méritant interprétation, au lieu d'être le référent ultime pour l'interprétation des autres œuvres. Et c'est un changement notable. Le manuel invite ainsi les élèves à réfléchir sur la fonction du texte épistolaire en interrogeant la figure que l'artiste Flaubert contribue à constituer dans sa correspondance. Figure construite parmi d'autres possibles, l'image de l'écrivain Flaubert apparaît comme une production originale de l'écrivain, là où les précédents manuels en faisaient la vérité indiscutable de Flaubert, répétant sans le questionner son propre discours. Le grand nombre d'extraits retenus par le manuel permet d'exposer les difficultés techniques que rencontre Flaubert au cours de la rédaction de Madame Bovary, en montrant que la correspondance est bien l'espace d'une problématisation de l'écriture, où se cherche une poétique nouvelle, sans pour autant que les lettres soient données comme dévoilant la vérité de l'œuvre produite. Le manuel invite ainsi explicitement les élèves à réfléchir sur la relation existant entre le discours de l'épistolier et l'œuvre littéraire, pour voir si, je cite le manuel, le résultat correspond ou non aux intentions affichées par Flaubert. Mettant en question l'image que l'auteur veut donner de lui-même dans la correspondance, interrogeant le discours esthétique qu'elle contient et son lien avec les auteurs, le Bréal se démarque donc très nettement de ses prédécesseurs. La rupture que constitue ce manuel ne se manifeste pas que dans la présentation que le manuel propose de la correspondance. On peut également voir dans ce manuel une tentative pour penser différemment le rapport entre littérature et histoire, et de les envisager autrement qu'en termes d'irréconciliables. Ce manuel s'applique à traiter les quatre perspectives d'études définies dans les programmes de 2001, dont la première est précisément l'approche de l'histoire littéraire et culturelle. Et je vais y revenir lorsque je parlerai des programmes de 2015. Il s'agit pour les auteurs d'aider l'utilisateur à construire une représentation globale de l'héritage littéraire qui est le nôtre et de prendre la mesure de l'historicité des pratiques littéraires. Ainsi, conformément aux instructions du programme, les œuvres ne sont jamais dissociées de leur contexte de production. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans les présentations des manuels. En liaison, le dispositif fortement inspiré, le dispositif du manuel Bréal, fortement inspiré du renouvellement de l'histoire littéraire, met l'accent sur la contextualisation au travers de différentes rubriques, dont trois en particulier. La rubrique situation, qui dessine un cadre temporel grâce à un choix de date emblématique sur le plan politique, historique et artistique. La rubrique lieu, qui se concentre sur les espaces qui favorisent à une époque donnée l'élaboration, la diffusion et la consommation de la littérature, et la rubrique figure, qui présente des modèles historiquement conditionnés qui contribuent à installer des représentations et des postures qui influencent les écrivains. Ces rubriques témoignent d'une volonté de mettre en relation les œuvres et les sociétés. En ce qui concerne le XIXe siècle, et plus précisément Flaubert, le va-et-vient est constant entre l'histoire et les œuvres, au sens où elles constituent désormais une mise en texte de l'histoire, sa textualisation. L'œuvre et le projet de l'écrivain sont ici pleinement associés à l'histoire du XIXe siècle, histoire qui s'inscrit en eux. L'auteur de Madame Bovary apparaît comme absolument engagé dans son temps, là aussi c'est une nouveauté, en raison même et non en dépit de sa volonté de rompre avec le monde social. Par conséquent, si ce manuel exprime une autre histoire littéraire que celle de la tradition, il esquisse aussi en partie la figure d'un autre Flaubert, faisant écho à des travaux qui ont approfondi l'étude du rapport de l'écrivain à l'histoire. Toutefois, et c'est précisément ce qui me semble le plus éclairant, la plupart des autres manuels peinent à penser le rapport entre écriture et histoire autrement qu'en termes de séparation ou d'exclusion réciproque. Qu'il s'agisse des tenants d'un classicisme élargi, qui privilégie les œuvres pour leur valeur intemporelle, ou de ceux qui voient une rupture dans la modernité littéraire, mais en la pensant avant tout dans la perspective d'une autonomisation de l'écriture par rapport au réel et à l'histoire, c'est bien la vision d'une littérature détachée de l'histoire qui prévaut et pour laquelle, alors, Flaubert fait office de parangon. La dernière présentation de Flaubert à l'œuvre dans les manuels et les programmes scolaires correspond à deux périodes. La période 2001-2011, à laquelle se rattache le manuel Bréal, qui voit l'apparition des manuscrits et des brouillons d'écrivains dans les programmes de français de la classe de seconde. 2015 ensuite, où Madame Bovary a bénéficié d'un retour en œuvre imposée dans les programmes de littérature en classe terminale littéraire. J'ai déjà consacré une longue étude à ce rapport entre génétique et didactique. Je reprendrai une petite synthèse en me consacrant sur les rubriques et domaines d'études que les instructions officielles proposent. De 2001 à 2011, Flaubert apparaît comme un auteur privilégié de la rubrique « Le travail de l'écriture », elle-même incluse dans la rubrique « Production, diffusion et réception des textes ». André Petitjean le souligne dans les documents d'accompagnement qu'il a contribué à rédiger du programme de seconde. Il s'agit d'une approche des textes moins formelle et plus contextuelle, d'un accent mis sur l'historicisation et dans l'attention portée au processus de génétique des textes, d'étudier les opérations de rabodage scriptural, les phénomènes d'intertextualité, d'écriture et de réécriture en liaison avec la réhabilitation d'une culture rhétorique. Programme ambitieux s'il en est et que ne vient pas contredire l'ambition non moins démesurée du programme de terminale en 2015. Le bulletin officiel de l'Éducation nationale invitait les élèves à une compréhension, je le cite, plus complète du fait littéraire en les rendant sensibles à partir d'une œuvre et pour contribuer à son interprétation, à son inscription dans un ensemble de relations qui intègrent les conditions de sa production, comme celle de sa réception ou de sa diffusion. Dans le domaine d'études « Lire, écrire, publier », on étudie Madame Bovary, je cite toujours les instructions officielles, en privilégiant d'une part la genèse de l'œuvre, éclairée par la correspondance de Flaubert avec ses contemporains, véritable essai sur l'art romanesque, et on le voit, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la présentation de 1927, d'autre part, la réception très polémique du roman en 1857 au travers du procès et du réquisitoire de l'avocat impérial Pinard. Pour mesurer l'ambition de ce programme, je rappelle que la littérature en terminale se limite à 2 heures de cours hebdomadaires et que le domaine d'études lire, écrire, publier doit disputer ces 2 heures à l'autre domaine d'études prévu, littérature et langage de l'image, qui comprend une autre œuvre intégrale et une œuvre cinématographique. Que disent donc ces rubriques ou domaines d'études? Indépendamment du fait qu'ils disent que la génétique textuelle est désormais une approche critique comme une autre, et qu'à ce titre, elle ne peut pas ne pas figurer dans les possibles méthodologiques scolaires, les objets construits mettent l'accent sur le travail du texte, c'est-à-dire sur l'œuvre comme résultat d'une élaboration, avec ses hésitations, ses repentirs et ses réécritures, entendues à rebours même de l'approche critique dont ces objets d'études se réclament, comme amélioration. Un ouvrage publié en 2003 qui allie critique génétique et didactique de l'écrit l'indique en introduction. Réécrire, c'est copier et améliorer. Apparaît en filigrane la fondamentale duplicité de la réécriture qui, dans la duplication, conduit sans rupture à la complication. Car réinscrire le même ouvre un nouvel espace, oblige à toute espèce de métamorphose minuscule, bref, incite à mieux rédiger. La démarche, extrêmement formaliste et normative est claire. Les brouillons d'écrivains ont une vertu exemplaire. Ils permettent à l'élève, par la reconnaissance des gestes de la réécriture, une appropriation progressive des gestes correcteurs, partant une amélioration de ses propres écrits. On s'intéresse moins à l'avant-texte qu'on ne travaille avec les brouillons rédactionnels dans une démarche applicationniste dont on espère en filigrane qu'elle aboutira à un transfert de compétences vers les écrits académiques. La figure de Flaubert, ou celle, dans une moindre mesure, de Zola, dont les manuels accueillent à la même période les notes et documents préparatoires, sont alors absolument parfaites pour inculquer aux élèves, rétifs à la programmation et à la réécriture du brouillon, l'idée de plan et de travail éternellement recommencé. Les instructions officielles de 2015 sont sensiblement différentes, davantage orientées vers une didactique de la lecture. Elles allient démarche génétique et études culturelles, et visent à une compréhension plus complète du fait littéraire. Mais encore une fois, il s'agit moins d'étudier le roman flaubertien que d'appréhender le fait littéraire à partir de l'œuvre. Non pas les textes, si l'on considère le texte publié et ses avant-textes comme un ensemble de trames, un vaste réseau à explorer, mais leur inscription, je cite les instructions, dans un ensemble de relations qui intègrent les conditions de leur production comme celles de leur réception ou de leur diffusion. Non pas Madame Bovary, mais ses alentours sociétaux, dans une approche bien plus culturelle que littéraire. C'est un choix. Et dans un moment où se réformaient en France les programmes scolaires, et je pense au programme du collège, où les heures disciplinaires se réduisaient pour laisser la place aux enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI, où les programmes de français en parallèle au titre de la littérature patrimoniale prescrits et étudiés en classe prônent la lecture d'une littérature pour collégiens, hein, qui illustre, je cite encore les instructions, des points des programmes, on ne m'empêchera pas de trouver ce choix absolument contestable. Les nouveaux programmes du lycée viennent-ils changer la donne ? Revenons pour finir au programme de français 2019-2020. Quatre objets génériques, poésie, littérature d'idées, théâtre, récit, et une périodisation différente en classe de seconde et en classe de première, de façon à dresser un panorama complet du Moyen-Âge à nos jours. Réintroduction de la grammaire systématique sous forme d'analyses ponctuelles et de leçons, disparition des séries remplacées par des enseignements de spécialité, et dans ces séries, dans ces spécialités en classe de terminale, la spécialité humanité, littérature et philosophie qui propose deux thématiques, la recherche de soi et l'humanité en question, avec une liste d'œuvres sans aucun caractère prescriptif, disent les instructions, dans laquelle on retrouve tout de même l'éducation sentimentale et l'article de Proust, bien sûr, à propos du style de Flaubert. La prescription intervient en revanche en classe de première. Pour la voie générale, comme pour la voie technologique, la triade poétique Hugo, Baudelaire, Apollinaire. Pour la littérature d'idées, Montaigne et La Fontaine pour tous, Montesquieu pour la voie générale, remplacé par Voltaire pour la voie technologique. Pour le théâtre, Beaumarchais et Beckett pour les deux voies, auxquelles viennent s'ajouter Racine pour la voie générale, Molière pour la voie technologique. Enfin, pour le roman, Madame de Lafayette et la princesse de Clèves pour tout le monde, Yourcenar et Stendhal pour la voie générale, Sarraute et Verne pour la voie technologique. Le choix des auteurs dans un programme qui impose une liste limitative, Verne plutôt que Stendhal, Stendhal plutôt que Flaubert, Sarraute plutôt que Yourcenar, Molière plutôt que Racine, Voltaire plutôt que Montesquieu, n'est pas anodin. Et indépendamment de la lecture univoque que pouvait faire en 1974 René Balibar dans Les Français fictifs, hein, mais nous étions en 1974. Dans la mesure où les programmes de 2019 proposent le même nombre d'objets d'études et un même nombre d'œuvres en voie générale et en voie technologique, et ce, indépendamment d'un nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire différent, que la plupart des titres figurent à l'identique dans les deux voies, qu'il n'y a aucun document d'accompagnement précisant les raisons qui ont présidé au choix opéré, l'on en est réduit à spéculer sur les motifs de substitution d'un auteur à l'autre, mais aussi sur les critères qui ont permis de retenir l'un plutôt que l'autre. Je risquerai pour finir quelques réflexions. D'abord, je noterai la procédure assez curieuse qui consiste à imposer un programme quasi identique aux deux voies, un programme national imposé, tout en proposant d'échanger certains auteurs. Un peu comme si l'on ménageait la chèvre et le chou, en rétablissant d'un côté un programme national unique, tout en concédant de l'autre quelques adaptations au lectorat de la voie technologique, adaptations dont Yourcenar, Stendhal, Montesquieu et Racine font les frais. Car rien ne me semble plus imposer des cannibales ou Phèdre dans la voie générale que nécessiter leur retrait dans la voie technologique, et d'autant moins que la question ne se pose ni pour les contemplations, ni pour le mariage de Figaro, ni pour la princesse de Clèves, etc., etc. Je veux bien feindre de croire que ces substitutions ont des motivations didactiques ou pédagogiques. Il n'empêche, un programme limitatif ambitionne la constitution d'une culture littéraire commune articulée autour de la lecture massive de classiques que les instructions officielles du début du XXe ne renieraient pas. Mais force est de constater que la culture commune n'est pas la même pour tout le monde. En ce qui concerne l'objet d'études romans et récits du Moyen-Âge au XXIe siècle, l'approche préconisée par le bulletin officiel se veut totalisante, dans une synthèse quasi exhaustive des approches ayant irrigué les précédents programmes. Études internes, approfondies de l'œuvre au programme, mais aussi bien lien avec l'histoire de la littérature et avec le contexte littéraire, historique et culturel, dont l'œuvre est envisagée comme dépendante. Ainsi, et je cite les instructions, « Ainsi le professeur, veillant à expliquer comment le roman ou le récit exprime, à travers une poétique spécifique, une vision du monde qui varie selon les époques et les auteurs et dépend d'un contexte littéraire, historique et culturel, s'attache à la fois à l'étude de la représentation, à l'analyse de la narration, au système des personnages et aux valeurs qu'ils portent, ainsi qu'aux caractéristiques stylistiques de l'écriture et à la réception de l'œuvre. » Je rappellerai les 4 heures de français en voie générale et les 3 heures en voie technologique qui doivent permettre de traiter les 4 œuvres intégrales et les parcours associés imposés par le programme national, mais aussi l'étude systématique d'un certain nombre de points de langue, syntaxe et subordination en particulier, ainsi que la préparation aux épreuves écrites et orales du baccalauréat. S'il faut à la fois considérer l'avant-texte, la réception de l'œuvre, le contexte et l'étude interne approfondie, les valeurs que les personnages portent et leur insertion dans les champs culturels. Il est à parier que ce sera à marche forcée, dans une temporalité restreinte et un cadre institutionnel contraignant, n'autorisant rien d'autre qu'une approche succincte, au détriment de la lecture effective du texte. Qu'advient-il alors du goût de la langue et de la littérature que l'on est aussi censé transmettre, je citais encore les instructions officielles. Non, décidément, on n'aime pas la littérature, peut-être pas davantage les élèves.
Des programmes du 19e au 21e siècle qui nous permet d'éclairer et d'avoir un certain recul sur les choix institutionnels tout à fait contemporains. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Moi, je vais juste apporter deux références que tu peux ajouter. D'une part, Al-Bala. Antoine Al-Bala, fin du 19e et du 20e. Notamment pour le travail du style enseigné par les collections manuscrites des grands écrivains, où Flaubert est en place de modèle pour le travail du style. Et on sait que Al-Bala est en polémique avec Romy Gourmand sur la question de, d'un côté, le génie créateur. C'est aussi une polémique qui est en Angleterre, l'opposition entre ceux qui considèrent que les écrivains créent, qu'il n'y a pas de modèle et que chacun crée, voilà. Et puis Al-Bala qui multiplie les ouvrages pédagogiques sur comment on apprend à écrire. Voilà, mais Flaubert, donc c'est 1903 pour celui-là, mais il y a 1899, c'est autour du. Ouais. Avant le. Et deuxième référence à l'appui de ce que tu disais sur la polémique du style de Flaubert dans les années 20. Il y a cette lettre célèbre de Proust, mais qui date de 1908, à Madame Strauss, où il dit que, je paraphrase, mais le propos pour les écrivains, ce n'est pas de défendre la langue, mais c'est de l'attaquer, justement. Et ça s'inscrit dans une tradition d'écrivains du 19e siècle, dont Flaubert, qui défendent contre les puristes la liberté de changer la syntaxe. Ça porte vraiment sur la syntaxe. Donc, dans une tradition qui inclut Georges Sand, mais ce qui n'empêche pas Flaubert, dans le deuxième volume de Bouvard et Pécuchet, de faire une anthologie des fautes des grands écrivains qui écrivent mal, avec la répétition des séries des queues chez Bossuet. Ça ne se place pas au même endroit.
Oui. Tout à fait. Merci, effectivement.
Sur la période de Ferry et Volonté, enfin, le devoir, toute la dimension, moi, ce qui m'a frappé en écoutant, c'est d'abord un point, c'est Lançon,
oui.
Lui aussi, comment
oui, bien sûr.
Ouais. Le style, l'étude de la langue, etc. Mais ça, c'est juste en un mot, Al-Bala. Et ça correspond à quelque chose de vivant. Non, c'est écoutant les inscriptions de 1880 et les actuelles inscriptions, l'écho moral a disparu.
Oui, alors c'est pas exactement formulé de la même façon, mais il y a un résidu.
Voilà, et la manière, la question en écoutant, je me disais au fond, qu'est-ce que c'est que les instructions, maintenir des instructions ministérielles.
Ah oui.
Bon, je rêvais à ça parce que ça existe, c'est actif, c'est présent. Est-ce que ça sert à quelque chose?
C'est une vraie question.
Sinon, à définir un cadre. Auquel on devrait obéir jusqu'à la limite justement de ces inscriptions qui laissent le maître libre de.
Bon, oui.
On n'a plus le mot de maître.
Non.
cette longue existence de la gestion par l'instruction par le ministère de l'Éducation nationale et par cette maison.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Oui,
est une histoire intéressante et je me posais la. régi ces idées d'éducation.
Alors, je ressens aussi trois idées sur la question. Voilà. Mais disons qu'en tout cas, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ces instructions officielles ou ces programmes pouvaient peser sur les enseignants du secondaire, quand même qui ont beaucoup de mal à s'en extraire ou à voir la marge de manœuvre qu'ils pourraient avoir par rapport à. Parce qu'il y a toujours d'un côté la menace de l'inspection, enfin, même si ça ne s'appelle plus comme ça, les consignes à respecter, les changements de programme, le chef d'établissement aussi. Qui veut que les parents d'élèves qui savent que désormais, donc ils sont sous des tirs finalement croisés de plusieurs injonctions, le bac, voilà. Les injonctions, c'est comme une contrainte intégrée, les instructions officielles comme une forme de gendarme intérieur, ça intervient même dans les classes qui ne sont pas des classes à examen. C'est ça qui est quand même aussi assez remarquable. C'est-à-dire que avec des secondes, il y a fort peu finalement d'initiatives ou d'innovation autour de ce qui pourrait être fait. Alors il faut bien, faire un programme pour que finalement l'éducation soit nationale aussi. Il y a cette nécessité-là. Après, ce qui fait fluctuer les instructions dans un sens ou dans l'autre, là aussi, c'est les avancées, en sciences de l'éducation, les derniers travaux qu'il peut y avoir ou pas, selon les moments. Voilà. Pardon. Le succès d'un courant plutôt qu'un d'un autre. C'est Oui, c'est très. On le voit très bien aussi au moment de la. Voilà, elle est à la fois dedans et elle essaie de se maintenir dehors parfois quand il y a trop de tirages.
J'ai reçu une fois d'une amie qui devait conseiller, je pense, des enseignants, justement sur cette formule esthétique et valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. Je pense qu'on peut voir ce que ça veut dire, mais c'est vrai que ça donne une espèce de langue de bois, là, comme ça, qui est figée, et ensuite débrouillez-vous avec.
Oui, d'autant plus que la formation continue des enseignants en poste n'est pas démentielle. Voilà.
Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la question de Jacques, et j'irais même en la prenant en amont. Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui justifie l'enseignement de la littérature.
Oui, alors c'est aussi par là que j'aurais pu rentrer, ça n'a pas été mon choix. Oui.
Ouais. Un peu de géographie, vaguement d'histoire, etc. Mais qu'est-ce qui le justifie donc, quelle est la fonction de cet enseignement à partir de là, d'ailleurs, on peut imaginer que se constitue ce que les Américains appellent le canon. Alors, donc, est-ce qu'il s'agit, justification, elle peut avoir les différents aspects. Bon, bien sûr, tu viens de nous expliquer, et là, je crois que les instructions sont importantes. Dans un pays centralisé comme la France, la constitution d'une culture commune, c'est-à-dire d'un socle culturel commun, s'explique, c'est vrai. D'ailleurs, le canon aux États-Unis, généralement, les étudiants l'apprennent au collège, la première année, parce que dans ce qui concerne le lycée, le high school, il n'y a pas de programme, on fait ce qu'on veut, les enseignants, je crois. Mais constitution d'une culture. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais la justification de l'enseignement de la littérature, il a été quand même assez fortement lié, et s'il s'est développé à la fin du 19e, c'est en concurrence avec la disparition des lieux où il y avait une éducation morale, bien évidemment religieuse, ou en concurrence avec son moral. Donc c'était à valeur édifiante. Et il est normal de constituer un ensemble de textes qui te formaient, qui t'apprenaient les valeurs, à la fois les valeurs morales, mais les valeurs du citoyen, les valeurs, etc.
Ah non, mais bien sûr.
Donc je crois qu'on ne peut pas non plus cracher là-dessus, parce qu'il faut s'interroger. On ne va pas transformer tous nos gamins en écrivain, etc. Donc, moi, je veux bien que c'est formidable de leur montrer, c'est très important pour eux, qu'on corrige ou on revole les subtilités du style, les brouillons, on refait. Ça, à mon avis, ça a même une valeur édifiante. C'est-à-dire qu'on peut leur expliquer que dans tous les domaines, soit on n'aboutit pas
spontanément aux choses.
Voilà. Mais comment pas les transformer en écrivains ? Hein, quel est le sens fondamental de cet enseignement ? Et je ne suis pas sûre que ceux qui fabriquent le programme cela pose cette question. Donc, il est évident pour eux que l'on doit enseigner la littérature. Donc là, moi, je crois qu'il y a une chose, vraiment, ça serait intéressant, hein, avec un certain nombre de gens, de travailler à ça. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup évolué. Bon, parce que, alors, c'est purement constitution d'une culture nationale, ça, c'est certain. Mais quelle valeur édificatrice ou d'édification au tout début du 19e, continuait ce qui se faisait au 18e, qu'est-ce qu'il lisait? Il disait Plutarque, hein, ça c'était terrible, la vie des hommes illustres, voilà, ça c'est édifiant. Tu vois, c'est donc ça qu'il faudrait interroger.
Oui, oui, non, mais
moi,
je.
J'ai l'impression que c'est fini. Alors on dit, bon, on va saupoudrer, on va mettre un petit peu plus de ci, un peu moins de ça. Bon, on va changer parce que la mode a évolué aujourd'hui, on a une sensibilité littéraire différente.
Partant
mais
de.
Ça ne répond absolument pas à la question de fond.
Mais non, parce que je... Je crains que les réformes successives soient des réformes circonstancielles.
Oui,
et donc,
ça,
voilà, c'est.
Pourquoi il faut que je leur fasse lire La Princesse de Clèves? Parce que c'est pour la connaissance historique de l'époque. Est-ce que c'est justement pour leur montrer les valeurs morales? Bon, c'est un très bel exemple, La Princesse de Clèves. Même si c'est plus Sarkozy qui disait qu'il n'avait pas lu, je ne sais pas quoi.
C'est ça.
Enfin bref, tu vois, quel est le sens ?
J'avais plus pensé à cette anecdote, le retour de la princesse de Clèves, c'est peut-être ça, l'origine de... J'y pensais plus du tout.
Oui.
Non, non, effectivement, j'avais plus pensé, je me souvenais plus de ce moment-là.
Les classes techniques, parce qu'ils confondaient Voltaire, tu étais dans Zanig et Voltaire, les Zanig de Voltaire, il y a pas fait le cursus...
Non plus, technologique, pas la voie technologique non plus.
Non, non, non mais...
Mon inquiétude est sérieuse aussi.
Non, non, mais dès le moment où, parce que ça n'a pas toujours existé, ce qu'on faisait lire, c'était les textes de l'Antiquité classique. Bon, c'était tout à fait autre chose. Et à partir du moment où la littérature nationale va être intégrée à l'enseignement, alors il faut se poser la question de la fonction. Et au début, bien évidemment, c'était à des fins de formation, de valet d'homme, du citoyen.
Oui, et puis de formation aussi linguistique, je veux dire, il faut une unité linguistique à un moment donné.
Ça,
donc c'est...
Évidemment,
on voit très bien à quelle nécessité ça correspond, mais effectivement, après les réformes, c'est-à-dire que maintenant la temporalité dans laquelle on pense une réforme, c'est 3 ou 4 ans, et c'est qu'il y a un temps bien trop court pour envisager une refonte.
Déjà, Jacques le sait, moi j'ai un livre, j'ai toujours voulu le faire traduire en français, mais il est énorme. Énorme succès aux États-Unis, ça s'appelait Green Books. Et c'est un journaliste qui, écrit par un journaliste du New York Times, qui, à la cinquantaine, retourne sur les bancs de son université, qui se trouvait en l'occurrence Columbia, qui avait un programme quand il était jeune étudiant qui s'appelle Green Books, où on te faisait lire du Homère, du Dante. Et il vient voir ce qui se passe aujourd'hui. Il voit que ça n'a pas vraiment changé. Et quand il assiste aux séances, tu vois très bien, je cherche le nom aussi d'un autre écrivain américain, malgré son nom, qui s'appelle Mallinson, qui est professeur de grec, je crois que c'est
Daniel Mallinson.
Il est dans quelle université? Peu importe.
Il est à Barnes, je crois.
Et qui lui est professeur de grec et qui fait des cours. Et son père va venir assister à ses cours. Pourquoi je cite ça? Parce que dans ces deux ouvrages, on s'aperçoit que le cours, soit le cours de littérature, Green Books, ou ce cours qui est en fait. faites sur l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, c'est formidable, comme
très bien.
Mais en fait, il s'agit simplement de problèmes de valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'Achille a raison de se foutre en rogne parce que l'autre n'a pas voulu le donner, la machin, etc. Hein, c'est exactement ça. On discute comme de cas. Tu vois, de cas qui sont. Qui touche effectivement au problème des valeurs d'une société. Or nous, en France, on a une toute autre ambition. C'est pas de a priori, c'est pas ce qu'on essaie de faire dans notre
ah, aussi parmi des tas d'autres choses.
On essaie de leur apprendre ce que c'est qu'un sonnet. Donc là, il y a quelque chose qui interroge la littérature. Aux États-Unis, la question est résolue. Ce sont des valeurs dont on va discuter. Est-ce que le héros vraiment se comporte comme un salaud? Est-ce que, tu vois, c'est je n'exagère pas, ou à peine. Ce livre est formidable, je vous recommande. Hein. C'est Daniel Mendelsohn et ça
s'appelle
Odysseus. C'est formidable. En plus, l'idée du type, il est helléniste et
il croit son histoire
avec de son père, qui ne croit pas bien, décide d'aller assister à son séminaire. Bon, ça pose des problèmes, évidemment, dans la vie. Mais on voit
c'est une histoire personnelle.
Mais c'est formidable. Et Greenbook, c'est entièrement ça. Excusez-moi, mais vous avez compris sur ma question.
Oui, bien sûr.
Pourquoi a-t-on décidé qu'on l'enseignait? Et si oui, alors le comment va suivre?
Mais je ne pense pas. Alors au début, on voit bien pourquoi. Mais après les évolutions, c'est.
En France, c'est une approche patrimoniale de la littérature.
Absolument.
À un moment donné, au 19e siècle, la littérature est pensée comme un patrimoine national, la littérature française. Aux États-Unis, il n'y a pas de département de littérature américaine. Ils n'ont pas du tout ce rapport-là à la littérature. Et dans les départements de littérature anglophone, c'est quand même toujours Shakespeare, à mon avis, la vedette.
C'est une lutte, ça. C'est pas vrai. C'est comme les hispanistes de l'Espagne et les hispanistes d'Amérique du Sud. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des vraies luttes profondes entre américanistes et les spécialistes de littérature anglaise, british. On ne sait pas si clair que ça. C'est même un conflit. S'y ajoute évidemment la littérature américaine, black. Afro-américaine.
Donc,
il y a des divisions très fortes qui se jouent sur cette dimension.
Mais est-ce que la structure département de littérature américaine, dans lequel on va raconter l'histoire de la littérature américaine,
vous avez raison, il n'y a pas cette conception.
Oui, de quelque chose d'artistique aussi, et se préoccuper de la forme artistique.
Pour revenir juste à la question des valeurs et à Flaubert en particulier, il me semble qu'il y a aussi une ambiguïté sur cette question de la valeur travail. Je crois que c'était Barthes qui disait que Flaubert était l'introducteur de la valeur travail en littérature. Et finalement, cette valeur travail qui pouvait apparaître peut-être pendant un certain temps comme une valeur méritocratique et qui l'est toujours en un sens, implique aussi un isolement finalement de l'écrivain par rapport à la société. Et là, ça devient problématique politiquement finalement.
C'est...
Et du coup, le génie de Hugo, d'un certain point de vue, devient plus démocratique comme valeur le travail
de Flaubert.
Bien
sûr, la tension est là. Tout à fait.
La valeur travail est aussi anti-aristocratique.
Oui,
mais l'idée qu'en fait, c'est pas seulement une question de naissance. Ça se travaille.
Oui, mais d'après ce que disait Florence, justement, aujourd'hui, le fait que le travail implique un isolement, finalement, du...
Un retrait
hors de la société, ça fait que, du coup, il est désengagé il est dans cet entrepôt.
Il y a aussi tout un courant qui vise à démystifier ça autour des ateliers d'écriture, autour de... qui sont assez présents dans... C'est-à-dire présenter le lien entre valeur travail et isolement comme un mythe lié au 19e siècle.
Mais de même que ce que tu disais à propos du travail, quand Barthes dit la valeur travail, c'est vrai que Musset va te dire que la nuit, il a écrit en une nuit comme ça.
Oui, c'est le génie inspiré par rapport, avec opposition. C'est une construction.
Pas du tout écrit il y a eu un basculement. Donc, bon, je reviens à l'idée que montrer les manuscrits de Flaubert, ça peut inculquer à l'élève vraiment cette valeur de travail. Enfin,
alors, pour l'avoir expérimenté en classe, l'utilisation des manuscrits de Bouvard et Pécuchet, ça fascine les élèves. Donc il y a au moins ça, de l'intérêt maintenu, et donc le déchiffrement du manuscrit, l'organisation, le classement, ça avait très bien fonctionné. Je crois que Gerson l'avait expérimenté aussi à l'époque. Voilà, il y a un attrait particulier pour... Après, espérer que voir comment un écrivain arrive à produire quelque chose va amener à un transfert de compétences vers l'élève qui va se dire, tiens, si lui le fait, moi, pour ma disserte ou mon commentaire composé, je vais pouvoir faire pareil. Je suis modérément convaincue. Hein.
Je pensais plutôt pour la course à pied, vous étiez là. Tu ne réussis pas du tout.